Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cœur de l'April, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Plusieurs personnes actives au sein de l'April parleront des activités de l'April, de son fonctionnement. Posez-nous toutes vos questions pendant le direct, nous y répondrons. Avec également au programme la chronique d'Emmanuel Reva, avec également au programme la chronique d'Isabelle Lavani qui va nous parler d'un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices du logiciel libre sur la Côte d'Azur. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Vous retrouvez sur le site de la radio causecommune.fm et sur le site de l'April, april.org, une page consacrée à l'émission avec les références du jour. Nous sommes mardi 7 juillet 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous nous retrouvez sur le salon dédié à l'émission, dièse libre à vous. Je salue aujourd'hui à la réalisation de l'émission Olivier Grieco et j'ai le grand plaisir d'être de retour au studio après quelques mois d'absence. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par la chronique Itsik numérique d'Emmanuel Reval, dont je vais lui laisser expliquer le titre, parce que, en fait, comme il me l'a envoyé 3 minutes avant l'émission, j'ai un petit peu oublié. Donc, bonjour Emmanuel, ça va bien?
Ça va, et toi Fred?
Bah, ça va très bien. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, j'ai essayé de faire un vrai sujet, mais c'était un peu compliqué. Et donc le sujet du jour, c'est un peu râlage en vrac d'un vieux libriste.
Ah oui, râlage, parce que moi j'ai dit ravage, excuse-moi tout à l'heure. Donc vas-y,
aucun
râlage,
problème.
Vas-y.
Il y a un truc qui se fait depuis longtemps, c'est les sites web, des services, des logiciels ou autres, pas forcément dans le libre, qui ne disent rien sur ce que fait le truc. Et le seul moyen de savoir, c'est de s'inscrire. Tu vois ces sites où tu as juste un formulaire d'inscription ou alors tu as juste un lien de téléchargement? C'est comme s'il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait la documentation. Souvent, il y a juste un tas de superlatifs, surtout le mot « awesome », qui veut dire « génial » ou « merveilleux ». Si on se fie à la description courte, on pourrait croire que les 3/4 des sites autour des logiciels et services en ligne font exactement la même chose. Et la description qu'on voit un peu partout, c'est « We are awesome people making awesome software for awesome users ». Ou en français, « Nous sommes des gens géniaux » qui faisons des logiciels géniaux pour des utilisateurs géniaux. Mais encore, et puis c'est aux utilisateurs de décider si c'est awesome, non? On dirait Donald Trump quand il se présente. Il y a une petite vague de logiciels libres qui font un petit peu pareil, qui imitent un petit peu trop les pratiques de l'écosystème non libre. La seule chose qu'on peut vraiment savoir en lisant ce genre de description, dans le cadre d'un logiciel libre, c'est que le projet tourne avec Node.js, et il se déploie de préférence avec Docker. Après, il y a les services non libres centralisateurs qui manipulent les utilisateurs via différentes méthodes, dont l'appel à la production de dopamine, avec des micro-récompenses pour chaque action d'engagement, et autres méthodes qu'on appelle « dark patterns ». Alors d'après Wikipédia, un « dark pattern », en français « interface truquée », c'est une interface qui a été soigneusement conçue pour tromper ou manipuler un utilisateur. Eh bien, ce genre de pratiques et comportements se retrouvent un petit peu dans le libre aussi. Vous avez déjà participé à une discussion sur un forum qui utilise le logiciel Discourse? J'ai arrêté de le faire. C'est hyper pénible, pour plein de raisons. Par exemple, rien que le fait que le raccourci CTRL-F fasse autre chose que ce que ton navigateur est censé faire, c'est du browser hijacking. C'est-à-dire le logiciel web Discourse détourne la fonction de recherche dans la page qui est activée via les raccourcis CTRL-F ou la touche slash pour faire son propre truc. C'est-à-dire une recherche sur le site du forum. Et la réponse des devs quand un utilisateur soulève le problème, c'est le CTRL-F du navigateur ne fonctionnera pas puisque la majorité de la page n'est pas chargée dans le navigateur. Et donc ce que tu proposes, c'est de casser le site. Je vais expliquer un petit peu ce dernier truc. En gros, quand on lit une page dans Discourse, un sujet, pas tout le sujet n'est chargé. Ça se charge au fur et à mesure qu'on défile la page. Et donc CTRL-F ne peut pas trouver ce qu'il y a tout en bas. D'ailleurs, il n'y a pas de bas de page, c'est fini ça. Non, en fait, ce que propose l'utilisateur est que le logiciel Discourse ne casse pas la fonctionnalité du navigateur. La fonction en elle-même, pouvoir chercher sur le site, ouais, pas de souci. Mais juste, ne détournez pas le navigateur des utilisateurs. Parce que ça, ça s'appelle du browser hijacking. Et c'est pas bien. Mais en fait, le truc que je voulais dire à la base sur Discourse, c'est sur son modèle d'interaction des utilisateurs. Il est basé sur l'économie de la dopamine. Pour chaque truc que tu fais, tu reçois une médaille. Vraiment, hein? Tu postes un truc, médaille. Tu réponds, tu likes, tu mets en favori, médaille, médaille, médaille. Ce n'est pas le seul logiciel libre à pratiquer ce genre de truc, mais c'est le premier exemple flagrant qui m'a traumatisé et même provoqué des cauchemars. C'est au point où je n'ai même pas cru que Discourse était un logiciel libre. Et autre truc en vrac, la documentation. Oui, c'était censé être le sujet du jour, mais je développerai plus tard. Depuis quand est-ce qu'il est devenu mal vu que de documenter son logiciel libre? Un exemple qui m'a causé une hernie, c'est Mastodon. Alors attention, hein, c'est un projet plutôt génial, vraiment. Si je râle, c'est que j'aime. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en cours, Mastodon est un service de médias sociaux ressemblant un petit peu à Twitter dans son fonctionnement, mais qui est décentralisé et fédéré. L'idée est de ne pas avoir de centre. Et pour ça, les gens peuvent installer leur propre instance Mastodon. C'est génial, je prends. Je suis là-dedans depuis l'époque où Friendica s'appelait encore Mispark. En gros, je suis un hipster du média social fédéré. Bon. Mais au niveau de la doc, c'est autre chose. Je vais sur le site. Bon, c'était il y a plus de 2 ans, hein. Je prends le code, je suis le guide d'installation, et bon, bah, je suis arrivé. Mais contrairement à d'autres trucs que j'ai installés, je ne comprends absolument rien. Ce truc tourne par malentendu. Et je ne suis pas le seul à le dire. Et les mises à jour, waouh, c'est à moitié du hasard, hein. Un jour, je me suis retrouvé avec mon instance en rade tout l'après-midi. Je cherchais, mais rien. J'ai fini par taper toutes les commandes dans le désordre. Et en fait, c'est la bonne méthode. Ça marche. Un tel projet a besoin que ce soit le plus facile possible. Sinon, les instances, et donc le réseau, risquent de tomber. Au pire, se centraliser de nouveau. Si on veut que le plus de gens possible puissent héberger leur propre instance, si on veut donner le plus de chances d'avoir un vrai réseau de médias sociaux décentralisé et fédéré, il faut que ça soit plus facile et plus clair. En leur faveur, il faut le dire, la doc commence un peu à vaguement ressembler à quelque chose. Mais quand j'ai tenté d'apporter une micro-correction d'ailleurs, genre juste sur une phrase pour clarifier un truc, les gens sont réinversés, qui sont d'ailleurs super cool, hein, ils m'ont dit de passer par GitHub. Et là, non, mais vraiment? Mais ouais, vraiment. Tous les logiciels libres sont sur GitHub maintenant. Même les logiciels d'outils fédérés. Je sais bien que c'est difficile pour chaque projet d'auto-héberger son propre site et son propre GitLab. Mais bon, peut-être pas tant que ça en vrai, je sais pas. Ben, le vrai argument pour héberger ces logiciels sur GitHub quand on produit des logiciels de fédération et de décentralisation du net, c'est que c'est plus facile de se rassembler tous autour d'une seule plateforme centrale, non? Qui aurait cru qu'en 2020, il faut un compte Microsoft pour faire du logiciel libre? Alors je suis peut-être aussi un peu parti légèrement hors sujet, dans tous les sens. Peut-être. En même temps, on s'en fiche. J'ai qu'à dire que ma chronique est awesome. Cette émission est awesome. Et vous qui écoutez, vous êtes awesome.
En fait, tu es vraiment awesome. Alors, je précise que sur le salon web de la radio, on a précisé que priver les utilisateurs et utilisatrices de contrôle F devrait être interdit par la Convention de Genève. J'ai trouvé ça très drôle et c'est Étienne qui interviendra tout à l'heure. Et je précise que ton exemple sur Mastodon me parle, parce que je maintiens aussi une instance Mastodon et j'ai toujours un peu l'impression que c'est un peu par magie. Mais par contre, je n'ai jamais eu de soucis de mise à jour. Contrairement effectivement à toi, mais en tout cas ça fonctionne. On a l'impression que c'est un peu par magie que ça fonctionne, mais en tout cas ça fonctionne. Donc effectivement, t'étais un peu hors sujet par rapport au sujet initial, mais c'est pas grave. Après tout, t'es un vieux libriste, t'es un petit peu le tonton Manu dans les déjeuners de famille qui tout d'un coup parle sur un autre truc, machin, etc. Bon, en tout cas, merci pour cette chronique. Donc dont le titre est râlage en vrac d'un vieux libriste et non pas ravage en vrac d'un vieux libriste. J'avais mal noté au départ.
Pas encore.
Pas encore, exactement. Et j'espère que tu auras d'ailleurs tout l'été pour préparer ta chronique sur la documentation et qu'on se retrouvera à la rentrée pour la reprise de la saison 4 de Libre à vous.
Eh ben merci, c'est un plaisir et à bientôt.
Ben écoute, à bientôt. Donc c'était la chronique Itzik numérique d'Emmanuel Reva. Donc on va faire une petite pause musicale. On va écouter Flower Lights Delight par HMO. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. We'll be right back.
cause commune, cause-commune.fm.
Écoutez Floor Lights Delight par HMO, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de la radio causecommune.fm et sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France, en DAB+, également et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet principal. Nous allons poursuivre avec le sujet principal qui va porter aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison sur l'April. Nous avons intitulé ce sujet « Au cœur de l'April ». Plusieurs personnes membres de l'April vont échanger pour expliquer un petit peu ce que fait l'April, son fonctionnement, ses actions. Donc je vais saluer au fur et à mesure donc Marie-Odile Morandi. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour.
Christian Maumont. Bonjour Christian.
Bonjour tout le monde.
François Poulain. Bonjour François.
Salut Fred.
Elsa Potier, bonjour Elsa.
Bonjour.
Et Étienne Gonu, bonjour Étienne.
Salut.
Bon ben tout le monde est avec nous, donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas à participer à notre conversation, à nous poser des questions. Pour cela, rendez-vous sur le salon de web de l'émission, donc site causecommune.fm, bouton de chat, salon dièse libre à vous. Donc depuis 96, donc depuis bientôt 25 ans, l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, diffuse l'esprit du libre. L'émission Libre à vous est un de nos projets, mais il y en a d'autres. On va essayer de vous faire découvrir les coulisses de l'association, quelques actions, découvrir les personnes, donc soit membres de l'équipe salariée, soit bénévoles, qui nous permettent d'avoir une association vivante et active pour la promotion et la défense du logiciel libre. On a déjà consacré une première émission sur ce sujet avec d'autres personnes, le 16 juin 2020, donc le podcast est évidemment disponible sur le site de la radio et sur le site de l'April. En gros, on va essayer de vous diffuser l'esprit de l'April avec mes petits camarades. Alors, je regarde les, ce qu'il y a sur... non, je ne faut pas que je regarde ce qu'il y a sur les salons web, parce qu'on me déconcentre, le réalisateur me déconcentre en mettant des commentaires. Donc, en tout cas, rejoignez-vous et vous pourrez les voir. Alors, déjà, première question, donc, et je vais vous les poser dans l'ordre que vous êtes sur... On précise qu'on diffuse pour la plupart des gens sur Mumble, un outil d'audioconférence. Moi, je suis au studio avec Olivier Grieco, le directeur d'antenne. Donc, je vais vous demander de vous présenter d'où vous venez, ce que vous faites à l'April en moins d'une minute. Alors, on va commencer par Christian.
Oui, alors moi dans la vie je suis développeur informatique de logiciels libres et à l'April bah, je fais des choses avec l'April depuis 1998 en fait et je suis administrateur de l'April depuis 2016 et depuis 2019 je gère le groupe Chapril entre
super,
autres.
Super, merci. Elsa ?
Oui, alors moi je viens pas du tout de l'univers informatique au départ, j'étais bibliothécaire et puis suite à une bifurcation dans ma vie perso et professionnelle, j'ai souhaité trouver une activité salariée à temps partiel dans une structure dont l'objet et la façon de travailler en équipe faisaient sens pour moi et donc j'ai été ravie d'intégrer l'équipe salariée de l'April en novembre 2017. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben j'occupe de la suivi de la gestion des membres, suivi de la compta, Et depuis très récemment, j'ai commencé à m'impliquer dans le groupe sensibilisation. Donc je suis très contente de m'intégrer petit à petit au volet militant qui est au cœur de l'April et qui est la raison pour laquelle ça fait sens pour moi d'y travailler.
Ben, merci Elsa. Étienne ?
Oui, donc bonjour, moi je suis donc Étienne Gonu. Comme ma collègue Elsa, je n'ai pas du tout un background informatique. Je suis juriste de formation, même si j'ai un lien plus direct avec le logiciel, que je me suis spécialisé ensuite en droit du numérique. Et puis pareil, en cherchant du travail, j'ai trouvé l'April et j'ai embrassé le combat du logiciel libre. Donc je suis un des permanents de l'association. Plus précisément, je m'occupe des affaires publiques. En somme, je fais du plaidoyer politique pour défendre et promouvoir l'éthique du logiciel libre et particulièrement au niveau des politiques publiques. On pourra détailler plus tard. Et puis par ailleurs, je suis une des personnes en charge de la régie pour Libre à vous. Et puis périodiquement, je réalise et j'anime des émissions.
Merci. Marie-Odile.
Oui, je suis Marie-Odile Morandi. J'ai enseigné pendant de très nombreuses années la technologie collège au lycée Stendhal de Milan, qui est un lycée français à l'étranger, et aujourd'hui je suis à la retraite. J'adhère à l'April depuis 2011. Je suis impliquée dans le groupe transcription depuis 2011. J'ai succédé à Magali Garnero en tant qu'animatrice en 2015. D'autre part, je relis régulièrement les divers textes que produit l'April, les lettres internes et externes, les communiqués de presse et autres avant leur publication.
Ok, super. Et pour finir, François.
Oui, bonjour. Moi, j'ai rejoint l'April en 2005 à peu près. C'était au lendemain du rejet de la directive brevet logiciel et à la veille de la transposition de la directive UCD qui allait devenir le projet de loi d'ATSI. Donc aujourd'hui, je suis administrateur, trésorier, et je fais beaucoup aussi de mon temps sur la partie administration et système. Donc maintenir les serveurs et les services web, mail, etc.
Écoute, merci François. Je vous précise que si vous employez des sigles ou autres, essayez de les expliquer. Donc DATSI, c'est le droit d'auteur. On va rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, après cette petite présentation, donc l'idée, c'est d'essayer de, pour les personnes qui écoutent, de un peu mieux comprendre comment ce que fait l'April et son fonctionnement. Donc là, on va parler de pas mal de sujets. On va commencer par un sujet qui est un peu central dans le cœur de l'activité de l'April, hein, qui c'est l'action institutionnelle, ce qu'on appelle le plaidoyer. Et donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Étienne Gonu, mon collègue Étienne, on a une personne de l'équipe salariée qui est dédiée à ces actions. Donc Étienne, on va commencer par toi. C'est quoi l'action institutionnelle? C'est quoi le plaidoyer?
C'est vrai que quand on présente les actions de l'April, on distingue souvent d'une part les actions de sensibilisation. Je pense qu'Elsa pourra revenir dessus tout à l'heure. Puis Isa, lors de la première émission Cœur de l'April, en a bien parlé. Et ça, c'est plus l'aspect, on va dire, promotion. Et puis, il y a les actions institutionnelles, qui seront plutôt sur l'aspect défendre, même si on peut, évidemment, enfin, même si la distinction est pas si binaire que ça dans les faits. Alors, dans les grandes lignes, je pense qu'on peut définir les actions institutionnelles, le plaidoyer, comme étant ce qu'on va appeler de la représentation d'intérêt. Donc ça, c'est le terme français, c'est la version française d'un terme anglo-saxon qui est sans doute plus connu, qui est le lobbying. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui a tendance à être mal perçu, mais en gros, en tant que représentant d'intérêt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à influencer les politiques publiques. Et en gros, on va essayer d'avoir une influence sur l'élaboration des lois, l'élaboration et l'application des lois, sur les doctrines administratives, les politiques de marché public, toutes sortes de décisions politiques qui se traduisent de différentes manières et à différentes échelles. Même si l'échelle principale de l'April va être l'échelle nationale. Et puis, on va faire ça en produisant des argumentaires, on va avoir des actes de communication, on va prendre contact avec, typiquement les parlementaires, mais les décideurs politiques en général. On va pouvoir proposer des amendements sur des projets de loi, proposer des questions écrites, Donc, il y a différents outils et leviers à notre disposition. Et bien, la spécificité de l'April, hein, parce que je mentionnais le côté lobbying, c'est aussi pour distinguer, parce que justement, en fait, l'intérêt qu'on représente, celui qui va un peu réunir nos membres concernant le cœur de l'April, c'est pas la promotion d'un intérêt particulier, d'un intérêt financier, mais ce qu'on considère être l'intérêt général. En gros, l'éthique du logiciel libre, c'est-à-dire le libre accès, le libre partage de la connaissance dans ses formes logicielles. Et en fait, on fait ça autour d'un principe fort, principalement, qui est la priorité au logiciel libre.
D'accord. Alors, je vais préciser aussi que, alors sur le salon web, on nous dit, c'est François qui intervient d'ailleurs, qui dit les lobbyistes c'est le plus souvent des acteurs de l'ombre. Nous, on agit en toute transparence. Et il précise que les lobbyistes défendent ce pourquoi on les paye. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais à l'instant sur le terme de plaidoyer, qui est très peu connu en France, alors qu'il est très connu aux États-Unis, effectivement, on défend une vision particulière de l'intérêt général, qui est que logiciel libre pour nous, c'est un point essentiel pour une société libre. Et effectivement, on ne défend pas des acteurs particuliers, on défend vraiment une vision politique d'une société qu'on estime libre, inclusive, égalitaire et ouverte, ce qui nous différencie effectivement des lobbies. Et la transparence est importante, c'est-à-dire que, Étienne, je crois qu'en fait, j'en suis même sûr, mais une de nos façons de travailler, c'est de publier au maximum tout ce qu'on fait, c'est-à-dire à la fois nos analyses, mais aussi nos propositions d'amendements. Donc par exemple, dans un projet de loi ou une proposition de loi, si on a des amendements qu'on va transmettre à des parlementaires, on les publie aussi sur le site, ou en tout cas, on donne l'essence même de ce qu'on a transmis aux parlementaires.
Oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est aussi, ne serait-ce que parce que c'est au cœur, je pense, de l'éthique qu'on défend. Et donc, on va non seulement les mettre en ligne et les rendre accessibles, partager au maximum les liens et les liens les plus précis possibles pour éviter, faciliter aussi, hein, pour que les personnes puissent trouver l'information. Mais là où je mettrais peut-être une différence par rapport au lobbying, ce côté de l'ombre, et nous, on agit en transparence, nous, on le fait parce que c'est notre éthique, mais en tant que... on défend quelque chose qui nous tient à cœur et c'est pas forcément à la personne qui va défendre son intérêt. Tout le monde finalement est libre et doit pouvoir participer au débat public quel que soit le sujet, mais c'est peut-être plutôt au cadre de procédure, aux règles, de venir exiger, et c'est peut-être ça qui va manquer en France et qui fait qu'en fait cette action de l'ombre est possible, c'est qu'il manque de règles claires qui poussent à la transparence. Mais c'est pas forcément aux représentants d'intérêt, au lobbying comme on dit, mais aux personnes qui font du plaidoyer de décider quelles règles seraient juste. Donc nous on le fait parce que ça correspond à notre éthique et on est effectivement, c'est au cœur, on a vraiment la vigilance et le souci d'agir dans la transparence, et c'est aussi une manière d'intégrer les gens dans notre action. Mais
alors, pour que les gens comprennent bien, donc toi tu l'as dit en introduction, donc tu es salarié de l'équipe de l'April. Donc l'équipe de l'April, c'est, on va le rappeler, c'est une équipe de 4 personnes, hein, donc il y a moi en tant que délégué général, donc il y a toi sur la partie affaires publiques, et on viendra tout à l'heure après sur Elsa et Isabella. Donc toi, tu es salarié sur ce dossier-là, donc du plaidoyer. Mais comment ça se passe le travail avec les bénévoles? Est-ce que tu travailles tout seul? Est-ce que tu travailles avec des bénévoles? Comment ça se passe?
On a un outil de base, on a un outil, des outils finalement assez classiques, hein, qui nous permettent de travailler, ne serait-ce que déjà tous les deux pour commencer, puisqu'on est donc, moi temps complet et toi une partie de ton temps consacré aux actions de dossier. Donc ça va être une liste de discussion courriel, qu'on appelle la liste atelier historiquement, enfin qu'importe le nom. Là on va pouvoir échanger nos veilles, poser nos interrogations. Donc déjà ça c'est un outil classique mais indispensable. Et puis un autre outil qu'on utilise beaucoup et que pareil, Isa l'avait mentionné la dernière fois, qui est donc les Etherpad, c'est outils d'écriture collaborative en ligne, qui pareil permettent de co-rédiger, par exemple, nos communiqués, de co-rédiger des amendements, de partager nos réflexions. Alors c'est vrai que c'est des sujets. Alors il y a de l'aide bénévole qui soit notamment, et en fait c'est un aspect essentiel, hein, qui est de la relecture, et là j'en profite pour remercier Marie-Odile pour caractère très précieux de ses relectures. Alors précieux par l'orthographe, mais vraiment pas seulement en fait, et ça c'est presque un intérêt marginal, c'est que voilà, moi j'écris avec aussi mon passif, j'ai une formation en droit, j'ai une certaine grille de lecture, et peut-être que parfois je vais faire des phrases qui seront, enfin je vais prendre comme une évidence certaines terminologies, je vais écrire d'une manière qui va manquer peut-être de clarté, et d'avoir des relectures bénévoles, et même justement si on regarde entre guillemets non expert, même si Marie-Odile typiquement connaît très bien les sujets, mais ça permet d'avancer vers un meilleur produit final qui soit justement plus accessible, plus compréhensible, en gros que ça fasse de la meilleure communication. Et donc ça c'est un aspect d'aide par les bénévoles qui est très important. Alors c'est vrai que sur la liste atelier, peut-être qu'on ferait gagner en activité bénévole. On sait que c'est des sujets difficiles, donc peut-être que ça freine le sentiment de légitimité des personnes malheureusement à intervenir. Mais on sait que c'est quelque chose de très important, ne serait-ce que par aussi faire de la veille, donc faire ressortir des sujets, dire j'ai vu passer tel document, tel rapport, il y a tel projet de loi qui se profile, est-ce qu'on ne pourrait pas agir dessus? Et puis après on peut en discuter collectivement sur la pertinence de la stratégie, sur la pertinence d'agir, parce que Comme tu dis, on est, enfin voilà, on reste une petite structure. Notre temps est forcément limité, donc on doit faire des choix en termes de où est-ce qu'on peut agir. On peut pas agir partout. Et plus on est nombreux, plus on peut couvrir de terrain. Et ça, enfin voilà. Je sais pas si je réponds correctement.
Non, tu réponds. Alors, je vois que François va intervenir. Je vais lui donner la parole. Je voulais juste préciser qu'une des raisons d'être de l'émission Libre à vous, c'est de rendre accessibles nos dossiers. À travers des sujets qu'on traite régulièrement, soit nous-mêmes, soit avec des personnes invitées. Donc c'est une des raisons même de l'existence de l'émission Libre à vous, quand on l'a proposée à Radio Cause Commune, c'est de pouvoir rendre accessibles justement ces dossiers institutionnels à tout le monde, parce que c'est des dossiers effectivement qui sont complexes, et notre défi chaque semaine, c'est sur un dossier ou sur un sujet d'essayer de le rendre accessible en 45 minutes, une heure. Alors François, tu voulais réagir, vas-y François.
Je voulais pas spécialement réagir, mais si tu me donnes la parole, je la prends. Ça peut consister, ouais, à aussi trouver un rendez-vous avec un élu, discuter avec lui de la politique locale, comment on pourra améliorer les choses. Ça peut passer par participer à des consultations ou aider à formaliser des propositions en vue de consultation, etc. Ça peut prendre beaucoup d'aspects, hein, l'aspect institutionnel. C'est pas forcément uniquement aller au charbon avec les députés, proposer des amendements très techniques, quoi. Voilà, c'est un truc qu'on peut faire aussi à son niveau avec les interlocuteurs qu'on arrive à trouver autour de soi.
Alors, je pensais pas en parler directement, mais je vais passer 30 secondes la parole à Christian en lui posant une question, en tout cas en lançant sur un sujet. Une des actions possibles dans le domaine institutionnel, dans le plaidoyer, qui ne concerne pas directement, on va dire, l'écriture de la loi telle que nous on peut y participer, c'est le contact avec les élus locaux, notamment par exemple il y a les municipales. Une façon d'agir, c'est de, entre guillemets, peut-être d'adopter un de son élu municipal, que la personne soit maire ou soit simplement au niveau de l'adjoint au maire en charge de l'informatique ou autre. Voilà, c'est autour du pacte du logiciel libre, par exemple, c'est de sensibiliser les élus locaux.
Je ne peux que confirmer. Le premier niveau d'action à l'April, c'est de se tenir au courant en suivant la liste atelier, en posant des questions à Étienne. Et puis, la deuxième mode d'action, ce sont les initiatives lancées par l'April, notamment le pacte du logiciel libre, ou les campagnes candidats FR, qui consistent à suivre les campagnes électorales pour sensibiliser et contacter les candidats. Et ça fonctionne. Il y a une dizaine d'années, quand on a commencé, les interlocuteurs avec qui on discutait, ils savaient pas trop ce que c'était que le logiciel libre. Aujourd'hui, ils savent, hein, on se fait engueuler quand on leur demande, on leur pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est que le logiciel libre? Ils nous engueulent, évidemment, j'en utilise tous les jours. Donc ça a bien progressé, et puis aujourd'hui, on constate que les députés, les sénateurs reprennent correctement les problématiques, les enjeux pour faire des amendements. Et on est toujours là pour les encourager à le faire, et on a même des ministres aujourd'hui qui se félicitent d'être à la pointe sur l'utilisation des logiciels libres, même si aujourd'hui on constate que tous les amendements qui vont dans le bon sens sont quand même rejetés.
Christian, tu parles de ministres, alors du gouvernement précédent, du gouvernement actuel?
Alors, y en a qui sont restés. Typiquement, le ministre de l'Éducation nationale est resté. Donc,
excuse-moi, Christian, tu oses dire en direct à la radio que le ministère de l'Éducation nationale est en pointe sur le logiciel libre?
Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur le ministre qui l'a dit à l'Assemblée nationale en disant que quand il était recteur d'académie, il était en pointe sur l'utilisation des logiciels libres. Il se l'est bien pété en le disant. D'accord, j'ai la vidéo, je peux le prouver. Okay. Ils mettront la vidéo en ligne.
Alors tu mettras la vidéo en ligne, mais c'est juste rappeler quand même que quand on n'a pas de pouvoir, effectivement, ou pas grand-chose, on peut promettre plein de choses, mais quand on a le vrai pouvoir, finalement, on ne fait pas grand-chose. Donc je me permets quand même de préciser, parce que oser dire que Jean-Michel Blanquer est à la pointe en faveur du logiciel libre, c'est juste absolument pas possible. Donc voilà.
Mais c'est lui qui le dit.
Non mais pas importe,
Christian. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de constater justement la position des politiques, de ce qu'ils disent, et d'être capable de les contredire, et de rappeler ce qui est vrai, pas vrai, et les lignes de combat. Et l'April est très bien placé pour ça.
Voilà. Mais alors ça montre aussi qu'il y a un désaccord, vous voyez, d'approche au sein de l'April, parce que vous voyez, Christian a une approche, alors on va employer le terme qu'on emploie régulièrement avec lui, mais il a une approche différente de la nôtre. Mais factuellement, ce gouvernement n'est pas en faveur du logiciel libre, bien au contraire. On va rappeler que régulièrement on parle des open bar, Microsoft, défense, armée, hôpitaux, etc. Donc le gouvernement actuel, passé le nouveau, va sans doute combattre le logiciel libre comme ils l'ont fait depuis des années. Christian, merci, on va passer, excuse-moi, on doit avancer quand même sur les sujets. C'est pas moi qui t'ai lancé sur Blanquer, donc je me permets de te corriger. Je suis aussi là pour ça. Je voudrais passer la parole à Marie-Odile, parce que tout à l'heure, donc, Étienne a indiqué le rôle important joué par Marie-Odile sur les relectures. Alors, je voudrais savoir, toi, Marie-Odile, comment tu vis ça? Comment, la première fois qu'on t'a demandé de relire des textes un petit peu poussés ou autres, voilà, comment tu vis ça? Est-ce que c'est effectivement, c'est essentiel, ton œil que tu apportes? Voilà, comment tu vis ça? Comment tu travailles là-dessus?
Alors la première fois, j'ai commencé sur la pointe des pieds, je me suis permis de proposer des corrections en étant sur IRC, et à ce moment-là, vous m'avez donné la possibilité de faire des corrections directement. Donc effectivement, je relis tout ce qui est d'anal, l'orthographe, la grammaire, je supprime les mots redondants, et puis j'améliore. Et quand je ne comprends pas, je vous pose des questions, parce qu'il me semble que si je n'ai pas compris, parce que depuis longtemps maintenant je suis les dossiers, ça voudra dire que beaucoup d'autres personnes ne comprendront pas. Donc c'est dans ce sens-là que je participe à ces relectures qui sont très enrichissantes.
D'accord, et en tout cas elles sont très enrichissantes parce qu'effectivement tu nous apportes aussi une vision de personnes qui ne connaissent pas forcément les sujets, nous permet de clarifier les choses. Alors vu que tu as la parole et que je te donne la parole, il y a un groupe important, l'April, depuis quelques années, et notamment qui a repris de la vigueur depuis ton arrivée, c'est le groupe Transcription. Alors régulièrement tu fais dans Libre à vous une chronique, hein, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Donc voilà, quel est le but des transcriptions? Comment ça se fait? Est-ce que tu fais tout toute seule? Est-ce que tu as des bénévoles qui t'aident? Voilà, comment ça se passe le groupe Transcription?
Alors, je m'étais rendu compte, et les personnes qui avaient transcrit avant moi s'étaient rendu compte que de nombreuses émissions qui traitent du logiciel libre, des libertés informatiques sont en ligne, et il est tout à fait dommage que de ne les avoir que sous forme audio ou sous forme vidéo. Donc, quand on transcrit, on transforme en texte n'importe quel enregistrement audio ou vidéo, noir sur blanc, tous les mots que prononcent les intervenants sont écrits, tout ce qu'on entend, on obtient un fichier texte, on crée un fichier HTML qui est publié sur le site de l'APRI. Alors pourquoi on fait ça? Parce que il est encore clair que les moteurs de recherche trouvent plus facilement les textes, indexent plus facilement les textes. Donc grâce à des mots-clés, on peut retrouver tout ce qui a été dit par une personne. Donc un des objectifs, c'est l'indexation par les moteurs de recherche. On reproduit de façon intégrale, très fidèlement, les propos des personnes. Et grâce à cette fidélité, en cas de nécessité, on pourra retrouver exactement les propos qui ont été tenus par les intervenants. On pourra les réutiliser sans traduire leurs pensées en citant la source exacte. Donc un autre objectif, c'est la réutilisation qui sera efficace en cas de besoin. Et une cible importante des transcriptions, ce sont les personnes porteuses de handicap, les personnes malentendantes ou sourdes. En plus, quand on transcrit, on indique quelques particularités, le ton de la voix plus élevé, une imitation, les mimiques, la gestuelle. Donc ça renforce les propos, ça permet de mieux comprendre ce que les orateurs veulent transmettre. Et c'est un plus offert par la transcription aux personnes malvoyantes ou aveugles. Donc meilleure accessibilité. Donc les trois mots importants, on les répète tout le temps, c'est accessibilité, réutilisation et indexation. Dernière chose, parce que ça a été remonté par des personnes, lire demande moins de temps que d'écouter un enregistrement ou regarder une vidéo. Donc les transcriptions permettent aux personnes dont le temps est mesuré de prendre connaissance rapidement avant d'approfondir si elles le désirent. Et enfin, ben, pour moi, une des dernières choses, c'est que les transcriptions permettent de faire connaître l'April sous un autre volet, de diffuser tout ce que fait l'April et les logiciels libres, les libertés numériques.
D'accord. Alors, on va préciser que tu fais une grande partie du travail de transcription, mais qu'on encourage évidemment les personnes à rejoindre le groupe transcription de l'April. Je précise d'ailleurs que la quasi-totalité, la plus grande partie des activités de l'April sont ouvertes, en fait, même aux personnes non membres. Hein, donc, les personnes qui veulent rejoindre peuvent s'inscrire sur le groupe, sur la liste du groupe transcription. Donc, vous retrouvez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Et donc, effectivement, nous encourageons à rejoindre, ne serait-ce pas que pour faire des relectures. Et par rapport aux gens dont tu parlais, qui préfèrent lire plutôt que des écoutez, je connais des gens qui lisent l'émission Libre à vous de l'April, c'est-à-dire que plutôt que de l'écouter écoutez en direct ou en podcast préfèrent lire la transcription que tu réalises. Donc c'est un travail vraiment important que tu fais. Et bien encore une fois, j'encourage les gens à t'aider et à nous aider à transcrire ces documents ou à les relire. Oui, vas-y.
Non, entendu, mais récemment, j'ai deux relecteurs qui se sont inscrits, dont Véronique qui se reconnaîtra, qui trouve le travail très intéressant et qui envisage de commencer à transcrire. Donc, merci à elle.
Bon, ben super. Alors, je redonne rapidement la parole à Étienne qui va intervenir sur les transcriptions. Vas-y, Étienne.
Oui, juste pour dire que d'un point de vue aussi des actions institutionnelles, c'est ce travail-là est très précieux. Pour les raisons, pour les trois termes, là, indexation, etc., que Marie-Odile évoquait, parce que ça permet de retrouver des citations, ça permet de retrouver et partager des références, et parce qu'aussi, une des actions, partie de mon travail, c'est une certaine présence sur les réseaux pour commenter un peu l'actualité, l'actualité en direct, pour. Alors, j'utilise le terme anglais troller, mais en gros, aller taquiner, on va dire, notamment certains décideurs publics pour rappeler qu'on est là pour un peu les, notre occasion de poil à gratter, on va dire, pour les pousser à agir.
Bon, en fait, on te perd régulièrement, donc on n'entend pas ce que tu dis, en fait.
Je me tais, ok.
Bah, ouais. Lui non plus après.
Voilà, je te reprends après quand c'est réglé, mais parce que là, on entendait un mot sur deux, donc c'est un peu. Donc, en attendant qu'Étienne règle son souci, je voudrais demander à Elsa. Donc, Elsa, tout à l'heure, tu as dit en introduction, que. Alors, je me souviens plus les propos que tu as employés, mais que tu étais contente d'avoir rejoint une association qui partageait des valeurs que tu pouvais avoir, si je me souviens bien. Donc, déjà, première question, est-ce que le fait que ce soit une association qui promeut donc les libertés informatiques a joué un rôle important? Enfin, quel rôle ça a joué dans ton choix de rejoindre l'April?
Alors, c'est un peu. Tu as employé toi comme terme tout à l'heure quand Étienne parlait du plaidoyer, le fait de défendre un intérêt général et pas des intérêts privés. Tu as parlé de défendre une vision politique d'une société, je sais plus, qui est un employé libre, inclusive, égalitaire. Voilà, ça c'est des idéaux que je partage complètement. Après, je me sens totalement incompétente quant au champ de informatique et du coup, c'est une satisfaction pour moi de pouvoir contribuer. À la promotion et la défense des logiciels libres, avec des tâches que je peux faire moi.
D'accord. Alors justement, on va préciser un petit peu les tâches. En fait, on va préciser que toi, tu es donc à temps partiel. Hein. C'est un poste qu'on a ouvert à temps partiel, mais qui correspond aussi. Toi, tu cherchais un temps partiel pour des raisons personnelles. Et donc toi, ton poste de départ, c'est l'assistance administrative et on va dire plus globalement la vie associative. Donc c'est la gestion des membres, la compta. Voilà. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Quel est le rôle au sein donc de l'équipe de l'April?
Alors oui, effectivement, je travaille à temps partiel. C'était un de mes critères quand je recherchais un travail parce que j'ai d'autres activités à côté que je voulais poursuivre, notamment associatives et bénévoles par ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Ben oui, donc il y a la gestion des membres, le suivi, enregistrer les cotisations, gérer les prélèvements, toutes les cotisations qui sont réglées par différents biais, traiter les demandes de résiliation, voilà, tout un tas de choses comme ça. Il y a la relance des personnes morales, parce qu'il faut rappeler quand même que l'April peut exister et travailler parce qu'on a des adhérents qui cotisent. Sinon, on ne pourrait pas avoir l'indépendance qu'on a et on ne pourrait pas travailler. Je fais aussi le suivi de la comptabilité. Voilà, c'est tout un tas de tâches qu'on peut avoir plus ou moins de satisfaction à effectuer en tant que tel. Et en même temps, qui sont indispensables en fait au bon fonctionnement d'une association. Donc je suis contente de pouvoir les effectuer.
Effectivement, comme tu l'as précisé, donc peut-être que nous on l'a pas précisé, mais je crois qu'on l'a fait dans la première émission, le fonctionnement économique de l'association, donc c'est la cotisation des membres. C'est-à-dire, c'est notre principale source de financement. Aujourd'hui, on a environ 4000 membres, à la fois des personnes physiques, des personnes morales, donc entreprises, collectivités, associations et autres. Et donc une partie importante, pourquoi on a un poste dédié sur ça, c'est que ça prend du temps de gérer les cotisations, les relances, la partie aussi compta. Mais c'est au-delà quelque part de l'aspect purement administratif, parce que sinon on pourrait quelque part sous-traiter. C'est aussi de l'importance du contact humain. Par exemple, toi tu adaptes par exemple les courriels de relance en fonction des contextes. Donc là par exemple le contexte sanitaire. Et puis aussi tu sais orienter éventuellement par rapport aux questions que peuvent avoir les membres quand tu fais ce travail-là. Donc c'est pour ça que j'appelle ça aussi de la vie associative. Donc c'est au-delà simplement de la gestion, on va dire, purement administrative.
Oui, tout à fait. C'est ça aussi qui fait que c'est intéressant, c'est que je me sens vraiment Enfin voilà, il y a quelque chose de l'interdépendance entre les différents rôles que qu'on peut avoir les uns les autres à l'April, les salariés, les bénévoles, les adhérents. Et oui, le rôle que j'occupe moi, c'est aussi un peu de faire le lien entre les différentes personnes qui me sollicitent.
Et on va préciser peut-être un point, je vais demander ce que tu en penses. Dans le fonctionnement de l'April, et après je précise à Olivier qu'on fera une pause musicale, dans le fonctionnement de l'April, historiquement, en fait, l'équipe salariée et les membres du CA partagent la même liste de discussions. Donc les membres du CA ont aussi une liste interne, mais la plupart des discussions vraiment entre membres de l'équipe salariée et liste CA et membres du CA se passent sur une liste, et quel que soit le poste occupé par la personne. Donc même toi qui fais de l'assistance administrative à la base, tu es sur cette liste-là, donc ce qui te permet de voir en fait les échanges, voire même de réagir. Donc comment tu le vis ça? Parce que c'est peut-être pas forcément le cas dans toutes les associations.
Non, en effet, c'est souvent un problème dans les associations militantes d'ailleurs de savoir comment inclure la personne qui fait la gestion administrative dans le fonctionnement plus global de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas au moment où j'ai postulé, effectivement, mais que j'ai observé avec plaisir. Et ben, quand je disais que je cherchais une structure où la façon de travailler en équipe me plaisait, ben il y a eu cette bonne surprise. Et je trouve ça très agréable, cette horizontalité, cette possibilité d'échanger, quelle que soit notre place dans l'équipe, c'est vraiment quelque chose de très positif.
Alors on reviendra tout à l'heure aussi sur l'évolution de tes activités. Alors je vais répondre à Omar, je vois qu'il y a une question sur le salon web, donc je vous rappelle un causecommune.fm, bouton de chat. La question, alors je la retrouve, elle était où? C'était: est-ce qu'on compte approcher le nouveau secrétaire d'État numérique s'il y en aura un? Bon, par principe, effectivement, on peut toujours solliciter des entretiens. C'est ce qu'on fait à chaque fois que des gens sont en charge de l'informatique ou autre. Après, on va attendre effectivement de voir qui va être nommé. Mais après, si c'est le même type de ministre, rien ne changera dans les mois à venir au niveau gouvernemental. Je le répète encore une fois, malgré les propos qui ont été tenus tout à l'heure, que ce gouvernement est anti-logiciel libre. Et il n'y a pas de raison que ça change. Donc, on va faire une pause musicale. On va écouter The Memory 2 par Wario Lutra Lutra. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
As it came, it was here, and it was gone. What is still inside my head? I wish I could hold on. Cause time, it makes some funny things, the memory too. But it loves to fool around. And as soon as you are thinking of just something else, well, it plays its tricks on.
Cause commune, cause-commune.fm
93.1. Thank you.
job.
D'écouter The Memory 2 par Wario Lutra Lutra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion intitulée Au cœur de l'April, autour des actions et du fonctionnement donc de l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc avec moi, Christian, Elsa, Étienne, François et Marie-Odile. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions avec Elsa de la partie assistance administrative, vie associative, mais on va y revenir après. Là, je voudrais qu'on change un petit peu de sujet, qu'on vous parle un peu de services libres et loyaux. Et je pense que Christian, Pierre, Momon se préparent à intervenir. Donc le Chapril. Parce que l'April, effectivement, on a parlé depuis le départ pas mal d'actions institutionnelles, de plaidoyer, mais l'April ne fait pas que ça, l'April propose aussi des services libres et loyaux. Donc Christian Momon, c'est quoi le Chapril ?
Donc le Chapril, c'est le chaton de l'April, et par chaton, on fait référence au collectif Chaton, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, initiative lancée par Framasoft et que l'on a décidé de soutenir. Donc c'est la mise en place de services en ligne libres, éthiques et loyaux. Pour montrer que ça existe, les faire connaître, permettre aux gens de les découvrir, de les utiliser et de s'abstraire des GAFAM notamment.
Alors les GAFAM, c'est les gens du web qui se nourrissent de nos données personnelles.
Entre autres, qui centralisent les traitements, les données, les informations et pas forcément de façon équitable.
D'accord. Alors le site de Chapril, c'est chapril.org. Alors ça existe depuis combien de temps ? Il y a quel service et est-ce que c'est quoi ? C'est une activité bénévole de l'April ? C'est une activité bénévole salariée ? Comment ça fonctionne ?
Donc le Chapril l'a ouvert en 2018, l'idée a été validée en 2016, la mise en place a été faite en 2017, donc ouverture en 2018 avec deux services, et tout est géré par des bénévoles, entièrement par des bénévoles. Il y a une équipe de bénévoles qui gère l'infrastructure, les VM, les mises à jour, le monitoring, des choses comme ça, et puis il y a une équipe qui se dédie à gérer les services un par un, ce qui permet de répartir la charge sur l'ensemble des bénévoles, parce que du coup, j'ai dit que l'idée avait été validée fin 2016, pour un démarrage en 2018, on pourrait penser que c'est lent, mais en fait, c'est fait sur le temps des bénévoles, donc on fait en sorte de ne pas surcharger les bénévoles, et ça avance, sûrement, doucement, à la vitesse des bénévoles, mais dans de bonnes conditions, ce qui font que les services fonctionnent et assurent.
Alors quels services il y a, les services majeurs actuellement disponibles ?
Alors nous avons commencé avec deux services principaux qui étaient donc Mastodon, donc ce système de messagerie décentralisé. Nous avions aussi un Framadat. Nous avons maintenant 9 services, donc il y a un logiciel de pad du traitement de texte collaboratif. Nous avons un PAST pour partager du texte en copier-coller. Nous avons une valise, enfin ce que nous on appelle une valise, à savoir une instance Nextcloud pour partager des fichiers, c'est une sorte de cloud, on peut partager des fichiers, des agendas, des listes de contacts. Nous avons très récemment ouvert un service de visio phonie avec une instance Jitsi. Nous avons aussi un service de messagerie XMPP. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié dans tout ça ? Nous avons un service de partage de fichiers avec Drop. Ai-je fait le tour ?
Je pense que tu as fait le tour. En tout cas, voilà, sur chapril.org, les personnes peuvent retrouver des services. Si des personnes veulent contribuer, elles peuvent nous contacter sur chapril.org. Et comme tu le dis, c'est donc une activité bénévole, mais ouverte à toute personne, que la personne soit membre ou pas de l'April. Donc, avec des compétences techniques, par exemple, pour maintenir un service, ou des compétences hautes, par exemple, pour rédiger la documentation. C'est ça ?
Absolument. Le cœur est technique, mais tout autour, il y a besoin de faire de la gestion de projet, par exemple animer le groupe, hein, qui est quand même constitué d'une presque une quinzaine de personnes. Il y a du rédactionnel, bah, il faut expliquer comment utiliser les services, présenter le chapril, etc. Il faut faire des conférences, et puis il faut faire de la modération aussi. Répondre aux gens par courriel, et donc pour ça il n'y a pas forcément besoin d'être technique.
D'accord. Je vois qu'Étienne veut réagir si son micro est retombé en fonctionnement. Étienne,
est-ce que vous m'entendez sans grésillement?
Vas-y, c'est bon.
Super. Oui, rapidement, je disais que les transcriptions aidaient beaucoup à l'action institutionnelle parce qu'elles indexaient. Et de la manière, toute l'action de Chapril est globalement dans le chat, enfin, du collectif chaton dans lequel le Chapril s'inscrit, aussi aide beaucoup, en fait, dans notre action de plaidoyer. Parce que, alors, moi, j'assume très bien de défendre une certaine utopie, et je pense qu'en fait, c'est ça aussi, hein, la bonne politique, c'est de défendre des idéaux. Mais, grâce au chaton, en général, grâce à Chapril, on a une démonstration matérielle, concrète qu'est-ce que ça veut dire, des services respectueux de leurs utilisateurs et utilisatrices, avec un système fédéré, décentralisé, basé sur l'usage libre, etc. Et quand ça donne corps comme ça, on est beaucoup plus efficace, lorsqu'on veut défendre nos positions. Donc, merci beaucoup pour tout ce que fait Chapril et font les chatons en général.
Alors, le Chapril, Christian en a parlé un petit peu, il y a une partie aussi entraide, assistance. François, au niveau du Chapril, comment ça se passe, l'entraide et l'assistance?
En fait, c'était pour préciser un peu que quand on prend en main les services, oui, il n'y a pas que des affaires techniques, il y a aussi, en fait, répondre aux demandes des gens. Des gens qui peuvent avoir perdu un truc ou qui cherchent à faire un truc et qui n'y arrivent pas précisément. Donc voilà, répondre aux demandes des gens et à entraider comme ça. C'est aussi une compétence utile pour laquelle l'aide est bienvenue.
Marie-Odile, de ton côté, est-ce que tu, en dehors des activités de transcription, est-ce que tu participes au Chapril? Est-ce que, par exemple, les services du Chapril te servent dans ton quotidien auprès des personnes qui se disent je vais organiser une réunion, plutôt que d'ouvrir la réunion avec un site privateur, tu les renvoies sur le Chapril?
Pour le moment, pas tout à fait. Par contre, personnellement, j'ai utilisé le service qui permet de sauvegarder un fichier volumineux et de le récupérer ailleurs. Et je pense que c'est un service que j'utiliserai encore. Pour le reste, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Ça reste difficile de convaincre les gens pour ma part.
C'est difficile pour quelles raisons? Pour les raisons d'habitude ou d'autres raisons?
Ben oui, parce que les gens ont pris des habitudes et je pense que c'est ce que je voulais dire. Je pense que j'ai pas toujours les arguments suffisamment convaincants, la façon de s'exprimer, etc. Mais j'espère pouvoir le faire prochainement.
D'accord. Alors, tu parles justement des arguments. On a un groupe de travail à l'April qui travaille à produire des outils, des argumentaires, mais aussi des outils de sensibilisation orientés quand même au grand public. C'est le groupe sensibilisation dont ma collègue Isabella Vanni a parlé donc le 16 juin 2020, hein, dans le podcast, dans la première émission au cœur de l'April. Tout à l'heure, Elsa, tu disais que tu avais expliqué un petit peu ton rôle d'assistance administrative et associative, mais tu avais aussi expliqué que tu commençais à contribuer à d'autres actions, donc en dehors de ce champ de vie associative. C'est notamment s'impliquer dans le groupe sensibilisation, et puis aussi tu fais du support à Isabella sur l'Expo Libre, hein, qui est un outil de sensibilisation important, expolibre.org. Explique-nous un petit peu comment tu es venu là-dedans et comment ça se passe.
Alors, le support pour l'Expo Libre, ça reste quand même relié à mes tâches administratives, parce que c'est surtout répondre aux sollicitations de personnes, d'associations qui veulent faire venir l'Expo. Donc voilà, c'est ce type de gestion-là. Mais récemment, effectivement, j'ai commencé à m'impliquer dans le groupe sensibilisation. Alors, c'est une partie, en fait, de l'April qui a tendance, depuis le début, à m'intimider un peu, parce que j'ai un peu du mal. Je dois construire un peu mon sentiment de légitimité à m'occuper de ce champ-là. Et je suis contente parce que dernièrement, ça commence à venir. Et par exemple, j'ai contribué à relire. Donc, Isabella a eu l'occasion de parler du jeu du Gnou, qui est en cours de construction. Là, j'ai commencé à participer à relecture des questions, réponses du jeu. Je commence à contribuer aussi au catalogue de fiches qui sera utile à mettre à disposition des bénévoles et des personnes qui visitent les stands de l'April quand on pourra refaire ce type d'activité. Voilà.
Ce sentiment de légitimité, enfin, c'est marrant parce que si je pose la question à Étienne de son sentiment de légitimité, je suppose que je vais entendre à peu près la même chose. Étienne, par rapport à ton entrée, donc toi tu es entré à l'April en 2016, je me souviens plus exactement, mais j'ai assez régulièrement, je crois qu'on a cette discussion, en tout cas on a ce retour sur le sentiment de légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un sentiment de légitimité par rapport à ton action au sein de l'April, sachant qu'on rappelle que tu es en charge des affaires publiques pour l'April?
Je vais essayer de ne pas partir dans un tunnel parce qu'avec une question comme ça, c'est possible.
Désolé pour la question, je n'ai pas prévu plus.
Non, c'est une bonne question et non, j'ai senti, alors quand je suis arrivé à l'April, oui, c'était effectivement une problématique que j'avais, c'était une interrogation que j'avais, parce que j'arrivais dans une association où voilà, des personnes étaient engagées sur une cause qui leur tenait à cœur et que moi je découvrais en partie, même si j'avais beaucoup d'affinités pour l'éthique du logiciel libre, en fait je me la nommais pas comme ça, alors que politiquement en réalité bah, je partageais énormément, je crois qu'Elsa disait pas autre chose, je partageais énormément de cette éthique-là, sans la nommer pareil. Là, ça fait 4 ans... oui, je suis arrivé en 2016, donc janvier 2016, et elle est de moins en moins présente, alors parce que personnellement, voilà, j'évolue dans ma vie, je gagne en confiance, et je vais en profiter peut-être aussi juste pour dire aussi que je pense que ça va beaucoup mieux sur le sentiment de légitimité, parce que l'April offre aussi un cadre humain d'une rare qualité, une vraie cohérence humaine en fait entre l'éthique qu'on défend, la manière dont l'April fonctionne et notamment bah, dans son rapport voilà aux salariés qu'on est. J'aime bien cette idée que voilà on parle souvent moyen ou fin. Bah l'April, on a bien compris que c'est les moyens qui déterminent la fin. Et du fait voilà bah, que ce soit les membres du conseil d'administration comme peuvent être Christian, Marie-Odile ou François ou le toi Fred en tant que DG, vous voilà participez à maintenir un espace où bah on peut trouver gagner en confiance. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on peut un peu révéler nos talents et voilà.
Alors, très bien. Je vais juste préciser que tout à l'heure, Christian a oublié de citer un des services du Chapril qui est Mumble, donc un outil d'audioconférence. Vu qu'on utilise aujourd'hui Mumble pour diffuser, donc il y a 6 personnes, je crois, connectées sur le Mumble actuellement. Donc ça, c'est juste pour préciser. Donc si vous voulez tester cet outil d'audioconférence, vous pouvez le faire. Alors, je vais rester sur ce sujet abordé par Étienne juste à la fin pour revenir justement sur. Alors, c'est vrai que sur le côté humain, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est vrai que pour nous, la priorité, ça a toujours été le côté humain, et j'en profite pour le dire que c'est pas toujours le cas, et c'est même rarement le cas dans le monde associatif, contrairement à ce qu'on pense. Des fois, le monde associatif est bien plus pourri que le monde, on va dire, du traditionnel d'entreprise. Mais il y a un truc qui, moi, m'a toujours intéressé aussi en tant que DG, ça fait... moi, je suis un libriste de base, donc c'est aussi vos apports, par exemple, entre Étienne et Elsa, vos apports personnels dans nos réflexions. Alors, Elsa, je t'ai pas prévenu que je te poserais cette question-là, mais toi, tu as apporté des choses par rapport à tes réflexions, dans nos propres réflexions internes. Alors, il y a eu des sujets divers et variés, mais c'est quelque chose, voilà, sur ce que tu as apporté. Et en tout cas, voilà, moi, je trouve que cette diversité humaine est une richesse, et je voulais t'en remercier. Et donc, par rapport à la légitimité, est-ce que toi, tu as mis du temps à être légitime par rapport pour intervenir sur d'autres sujets? Donc, on peut parler, par exemple, de la place des femmes ou autre. Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est clair, ma question.
Je crois que c'est clair. En fonction de ma réponse, tu pourras voir si tu étais assez clair dans ta question. Je vais commencer par dire que je suis totalement d'accord avec ce qu'Étienne vient de dire sur le cadre humain qui est... précieux et rare. Enfin, vraiment, c'est un plaisir de travailler dans ce cadre-là. Et effectivement, ce que tu dis, que c'est finalement assez rare dans le milieu associatif, parce que dès que c'est militant, on doit finalement travailler pour la cause et le reste, c'est facilement oubliable. Mais non, là, il y a une vraie cohérence globale et c'est très précieux. Donc oui. Ben, mes autres activités, je travaille dans plusieurs assos féministes, effectivement. Et non, je me suis dit assez, je crois, rapidement, peut-être que je me refais le film, mais senti légitime à avoir des propos, voilà, par rapport à toutes les questions qui m'animent par ailleurs. Parce que justement, dans l'April, il y a une qualité d'écoute et relationnelle et qui est très présente, quoi, qui se sent. Et donc, je me suis sentie assez confortable rapidement pour venir aborder des questions qui m'animent par ailleurs. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer un écho. Ça ne veut pas dire que c'était consensuel et que tout le monde est d'accord et que c'est génial. Au contraire, il y a la place pour des débats contradictoires. Des vrais questionnements de fond, et c'est très agréable, très enrichissant.
Cool. François, je vois que tu disais sur le salon que l'activité de certains sujets, sur certains sujets, peut être intimidante. Tu parles de sujets en particulier ou plus globalement
En fait, ça peut être assez variable, mais il y a certains sujets, oui, qui peuvent. Je prends par exemple les brevets logiciels. C'est des sujets qui sont longs, qui sont portés depuis très longtemps par nos adversaires et qui sont assez abyssales en termes de complexité. Donc ça, c'est très très difficile. On peut suivre ça, mais c'est quand même assez difficile d'avoir un avis très rigoureux sur la question sans avoir passé des centaines d'heures sur la question. Et puis, je pense qu'il y a aussi, c'est vrai qu'il y a, plein de beaux débats au sein de l'April. Dans le passé, il y a peut-être eu des débats un peu musclés, et maintenant il y en a moins, et on s'en porte pas plus mal. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent nuire, on va dire, au sentiment de légitimité. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt ça, la direction qu'on prend ces dernières années de ce point de vue-là.
Oui, je pense que la qualité des échanges est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a quelques années. Je le confirme. Alors, le temps file vite, et je vous rappelle qu'à la fin, vous allez avoir la question finale en tour de table. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur un autre sujet ou souhaitait rebondir sur quelque chose, sur un sujet qu'on a abordé avant qu'on fasse le petit tour de table final? Est-ce que quelqu'un veut le faire? Vous me dites sur le salon web, vous prenez directement la parole, hein. Et puis sinon on va faire le petit tour de table final, sachant que je pense qu'on refera une autre émission plus tard à la rentrée, parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on n'a pas encore abordées aujourd'hui, qui restent à aborder. Donc on va faire le petit tour de table final. Alors, la question finale que j'ai posée déjà la première fois, donc le 16 juin 2020, donc si vous écoutez le premier podcast, c'est pourquoi vous contribuez à l'April, qu'est-ce que ça vous apporte de contribuer à l'April, et qu'est-ce que vous avez appris en contribuant à l'April, sur le libre ou sur vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout répondre à tout, hein, mais voilà, un petit point final. Alors, on va commencer dans le même ordre que tout à l'heure, hein, je prends l'ordre de Mumble, donc Christian.
Alors moi, je dirais que l'April, c'est un espoir d'un combat, avec de l'expérience et des compétences et du nombre, ce qui fait que ça permet de faire un combat bien porté et qu'il n'y a pas de fatalité. La politique, l'informatique, même le Covid, ça peut paraître, ça peut donner l'impression qu'on peut rien faire contre ou rien faire pour que ça s'améliore. Et en fait, bah, si on peut, voilà, l'union fait la force, et à l'April notamment, on peut faire ensemble plein de choses.
Elsa.
Oui, bah, c'est un peu ce que j'ai dit, j'ai eu l'occasion de dire avant, c'est vraiment l'idée de contribuer à une œuvre plus globale. Ça fait un peu gros de dire ça, mais ça, d'œuvrer pour une société plus juste, plus égalitaire, quoi, dans le champ des logiciels libres plus spécifiquement, mais aussi de le faire en acte, dans notre façon de travailler ensemble. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, que chaque chose, c'est comme tout, c'est un chemin, et que dans l'univers libriste, en fait, je me sentais intimidée, très intimidée au départ, et là, je commence à me dire que c'est, c'est pas du jour au lendemain, on se transforme en parfait libriste, c'est petit à petit, on se libère, on s'émancipe, et voilà, c'est cool d'être dans ce chemin-là aussi.
Merci Elsa. Alors, je vais juste lire un truc que j'avais dit dans une conférence il y a longtemps, en 2011, une conférence, je crois que tu as regardé il n'y a pas très longtemps. En conclusion, je disais, ce qu'on a construit dans l'April, c'est avant tout un cadre dans lequel les gens qui ont envie de créer et de partager peuvent se sentir bien et peuvent venir apporter leur pierre à l'édifice. Ça me faisait juste penser à ce que tu venais de dire, j'ai juste pensé à ça et c'est dans mes notes. Donc je me suis permis d'intervenir dans le déroulé. Étienne.
Bah moi, ce que l'April m'a offert, bah, c'est assez précieux, c'est-à-dire un espace où travailler et avoir ce sentiment de sens, alors travailler, enfin, que ce soit sur les sujets qu'on défend, sur l'éthique qu'on défend, et puis dans la manière de travailler, et où je puisse avoir le sentiment de m'épanouir, d'apprendre, et puis en fait tout simplement de prendre du plaisir. Moi, je me suis rapidement en fait mis ça comme, enfin, j'ai ressenti ça, et je m'en suis fait un critère pour me confirmer que je me sentais bien à l'April, c'est-à-dire que je suis pas du matin, mais quand je me lève pour aller bosser à l'April, voilà, c'est pas mal, c'est pas trop compliqué, quoi. Donc ce que ça m'a appris, ben juste ça m'a permis d'enrichir en fait aussi en m'offrant peut-être. Moi, je suis un idéaliste, hein, et ça m'a permis d'affiner peut-être en prenant un objet politique précis qui est le logiciel libre, à la fois de découvrir finalement un champ que je trouve vachement intéressant, et ça m'a permis aussi d'étoffer, d'améliorer ma ma grille de lecture politique plus largement en partant finalement de cet objet-là. Donc je pense que ça m'a permis de progresser dans le chemin que je parcours, et puis notamment en contact de personnes super au sein de l'April. Et puis je vais les mentionner aussi, Easter Eggs, donc qui est une boîte de logiciels libres avec qui on déjeune tous les midis puisqu'on partage leurs locaux, qui sont des gens formidables, et de côtoyer des gens très cool, et ça m'a aussi apporté ça, l'April.
En fait, à l'April, on n'a pas le blues du dimanche soir, parce qu'on est content de retrouver le bureau, enfin, pas en ce moment, malheureusement. Voilà. Marie-Odile.
Je vais être un petit peu plus terre-à-terre. Donc, j'avais adhéré à l'April en 2011, mais je connaissais et j'utilisais les logiciels libres depuis bien avant, grâce à Framasoft, on en a déjà parlé. Et dans mon métier de prof, il était très difficile de faire changer les habitudes, les mentalités, souvent par manque de temps disponible de ma part pour bien expliquer l'éthique du logiciel libre. J'avais pas l'argumentation suffisante. Je ressentais les choses, mais je n'arrivais pas à les exprimer clairement. En plus, je suis une femme, et si en face de moi un homme expliquait que les solutions GAFAM sont meilleures que les solutions libres que le lycée pouvait offrir, c'est lui qu'on écoutait. Donc, lutter contre l'adversité demande une grande énergie, j'étais seule, et voilà. Donc, contribuer à l'April me permet en quelque sorte de pallier ce manque, ce presque échec, de compenser et de faire finalement la part que j'aurais souhaité pouvoir faire de façon plus convaincante. Donc, j'adhère à l'association et je participe.
Bah écoute, merci Marie-Odile. Et donc, le dernier, François.
Moi, je contribue à l'April... En partie parce que j'ai trouvé une noble cause que je trouve profonde et qui fait partie d'un mouvement de société très important. Moi, je me reconnais complètement dans l'esprit de Richard Stallman et dans tout un tas de propos qu'il a pu tenir autour du logiciel libre, société libre. Et au-delà de ça, comme Étienne, je retrouve aussi énormément plein de belles personnes avec lesquelles on a tissé des amitiés fortes, et ça fait plaisir de continuer à interagir, de grandir intellectuellement aux côtés de ces gens-là. Et j'ai beaucoup appris, notamment sur le côté relations humaines, quoi. Quand j'étais plus jeune, c'était plus facile pour moi d'avoir des relations avec les machines, mais ça n'a pas la même richesse, pas la même complexité. Donc je pense que j'ai beaucoup appris sur ce segment-là, en contribuant à l'April.
Écoute, merci. En tout cas, merci à tous et à toutes. Je dois ajouter que c'est un grand plaisir d'agir avec vous pour la promotion et la défense des libertés informatiques. Je vous souhaite de passer un bel été et on se retrouve à la rentrée.
Bel été.
Bel été.
On va faire une pause musicale. On va écouter Sandstrom par Alexander Nakarada. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. We'll be right back. Nous venons d'écouter Sandstrom par Alexander Nakarada, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, sur, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April. Annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique Le Libre fait ça comme de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet l'April. Bonjour Isabella. Alors aujourd'hui, tu reçois Véronique Fritière de Linux Azure, logiciel libre sur la Côte d'Azur. Ben, je vous passe la parole.
Merci Fred. Donc nous continuons à prendre des nouvelles des GUL, c'est-à-dire les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, donc les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres qui se donnent comme mission celle d'aider toute personne qui souhaite libérer sa machine à franchir le pas. Et pour cela, nous les remercions vraiment beaucoup car ils font un travail formidable et indispensable. On compte plusieurs dizaines de GUL en France, donc il y en a forcément un dans votre région, voire dans votre département ou ville. Donc n'hésitez pas à consulter l'agenda du libre pour trouver le GUL le plus proche de chez vous. Le site de l'agenda du libre est bien sûr référencé dans la page de l'émission d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme le disait Fred, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Véronique Fritière, présidente de l'association Linux Azure, qui est un groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, dont le périmètre d'action est principalement sur la Côte d'Azur, comme le nom le suggère. Donc bonjour Véronique.
Bonjour Isabella, merci de m'avoir invitée. Linux Azure exerce ses activités sur plusieurs pôles, soit des maisons des associations, soit des médiathèques. Elle œuvre sur Saint-Raphaël, Nice et le Bar-sur-Loup principalement, mais elle a aussi œuvré à droite à gauche, Grasse, Antibes. Alors on est en siège social à Antibes et on a eu de multiples villes qui nous ont prêté des locaux. Le but, c'est toujours de rassembler des experts et des personnes qui sont dans l'attente d'entraide. Nous œuvrons auprès d'un public qui a besoin d'aide soit en hardware, soit en software. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, changer une vis ou remplacer un moniteur.
Ça va au-delà du logiciel.
Et pas que le logiciel, oui. Non, nous œuvrons à plusieurs titres. Nous aidons les gens à réparer leurs machines et à comprendre comment ça fonctionne et comment utiliser au mieux les logiciels. Donc on partage en général les sessions en deux parties, surtout en Antibes. Une partie, c'est l'install partie, qu'on appelle rencontre accès libre, parce que l'acronyme, ça fait RAL, et c'est pour les râleurs.
Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est un install party? Parce que c'est une expression que pas forcément tout le monde connaît.
Une install party, c'est le moment où les gens viennent autour d'une table et où on discute de la problématique. Donc, comme je disais, soit par exemple remplacer un moniteur ou je ne sais pas, ou configurer une Raspberry ou comprendre le logiciel Inkscape ou la suite bureautique LibreOffice ou etc etc. De toute façon, en parallèle, on fait des ateliers où là, c'est un cours en fait. On n'a pas le droit de donner des cours quand on est une association, donc on appelle ça un atelier.
Très bien.
Et là, on explique aux gens comment utiliser un logiciel libre et on leur donne à la fin un PDF ou une vidéo, peu importe. Voilà.
Donc il y a une partie où les personnes expriment leurs besoins en termes, par exemple, de logiciels ou de matériel. Et après, il y a une partie où on va plus voir un peu plus en détail un logiciel ou une application en particulier. C'est bien ça?
Non, c'est en parallèle.
C'est en parallèle, pardon.
Donc une partie, oui, on organise ça en général à la demande des gens. Ils nous disent, voilà, j'ai besoin d'utiliser tel logiciel, je m'en sors pas. Et là, pendant que certains s'intéressent aux problèmes de tous les jours, les autres se rapprochent d'un problème particulier, qui est par exemple l'utilisation de Inkscape. Bon, je dis ce logiciel parce que je l'aime bien et que c'est souvent moi qui anime ce truc. Mais on fait aussi sur le C ou enfin code Python, peu importe. C'est vraiment à la demande de l'utilisateur.
Et la demande, ça se fait le jour même ou il y a moyen d'anticiper? C'est-à-dire, vous recueillez les demandes le jour même?
Non, les demandes se font à l'avance. via notre liste de diffusion où on intervient sur tous les sujets. Et là, on décide ensemble que, par exemple, le mois prochain, le troisième vendredi du mois en PIP, sera consacré à l'atelier sur le code Python, en parallèle de l'install party. Et là, les gens s'inscrivent sur le site pour qu'on puisse, parce qu'on a droit à une douzaine de personnes. Voilà, donc pour éviter qu'il y ait trop d'affluence ou qu'on se retrouve avec avec une salle vide, parce que ça peut arriver, des gens demandent et finalement ils ne viennent pas. Donc pour éviter ce genre de problème et de faire... parce qu'après, il faut que je demande à la maison des associations de nous partager la salle ou de la laisser entière. Donc pour éviter du travail inutile à tout le monde, on les fait s'inscrire. Voilà.
Pour proposer toutes ces activités, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes actives dans votre association qui sont impliquées. Tu as en tête un nombre?
On est un peu plus de 50.
Ah, quand même.
Plus le chiffre exact, on est 50 membres. On a aussi des sympathisants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas membres de l'association mais qui sont actifs sur les listes de diffusion. Et en moyenne, on a une dizaine de personnes qui s'activent vraiment pour toutes les activités. Alors certaines sont déjà sur place, comme à Saint-Raphaël à la médiathèque. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de l'association, mais qui nous ouvre ses portes et qui permet à des libristes de venir.
C'est très important de trouver de partenaires en fait qui offrent des lieux pour les GUL. Donc c'est très fréquent effectivement que les GUL testent des liens avec des médiathèques, avec d'autres associations pour mettre à disposition des locaux. Et je voulais savoir, à part les listes de diffusion, si une personne en Côte d'Azur entend parler de vous, de Linux Azure, où est-ce qu'elle peut trouver l'information par rapport, mis à part l'agenda du libre, je veux dire, est-ce que vous faites aussi de la communication sur vos activités par d'autres moyens?
Oui, on est référencé non seulement sur l'agenda du libre, mais aussi sur les listes de la FUL, qui référence aussi de nombreuses associations. Je le sais parce que c'est moi qui en suis en charge. Et on est référencé auprès des médiathèques et des maisons des associations. Et les gens peuvent retrouver aussi toutes les informations sur notre site principal, linuxazure.org, sur notre wiki, wiki.linuxazure.org. On a aussi un téléphone mobile où les gens peuvent nous contacter et nous faire part de leurs problèmes et on répond à leurs demandes.
Je souligne ça parce que pas tous les GUL, je pense que c'est rare qu'un GUL mette à disposition un numéro de téléphone. Normalement, c'est un adresse de contact. Donc, je salue cette mise à disposition d'un numéro de téléphone.
Alors, ce numéro de téléphone, il est à la base parce qu'on organise les journées méditerranéennes du logiciel libre.
Je voulais justement...
On avait besoin d'un téléphone entre guillemets, anonyme, que ce soit pas tout le temps Pierre-Paul Jacques qui reçoive les demandes. Donc, on avait centralisé tout sur un numéro de téléphone. On a pris un truc à 2 €. On s'est pas ruiné.
Tant que ça fonctionne, pourquoi ça doit être cher?
Voilà, ça fonctionne. En général, c'est la personne qui est en charge de l'activité du moment qui récupère le téléphone. Bon, actuellement, c'est moi qui l'ai. Grâce à la générosité d'un des membres, je suis sur un Ubuntu phone. C'est très agréable. Au moins, je reste dans le libre du début à la fin, quoi. C'est quand même quelque chose de très appréciable.
Et Véronique, voilà. Je voulais te demander quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, parce que ces derniers temps, les activités des GUL ont été impactées fortement, comme plein d'autres activités d'ailleurs, par les restrictions dues à la condition sanitaire particulière. Et concrètement, je voulais savoir comment vous avez vécu tout cela à Linux Azure, comment vous avez réagi pour garantir un minimum d'activités, d'échanges avec le public pendant le confinement et pendant le déconfinement.
Alors, pendant le confinement, on a travaillé exclusivement avec les listes de diffusion, les pads, une application qui passe par une URL qui s'appelle Jitsi. On s'est consacré par le téléphone. Voilà, on a utilisé tous les moyens de communication possibles, mais qui sont IRL. En revanche, toujours pendant le confinement, on a une personne qui voulait donner une machine, donc on est allé la récupérer sur un parking. La personne l'a sortie de sa voiture. On a tous pris du gel hydroalcoolique, on a récupéré la machine, on l'a mis dans l'eau de voiture. Voilà. Donc ça nous a pas empêché quand même de continuer à communiquer et à échanger de manière très active.
Ça fait plaisir.
Sauf qu'on n'a pas eu de rencontre IRL, ça c'est sûr.
IRL, ça veut dire in real life, donc en présentiel, on va dire en français.
Voilà, on n'a pas fait de présentiel. C'était pas... Et après le déconfinement,
oui.
Enfin, juste après, là, on a commencé à refaire des choses à Saint-Raphaël, qui nous a ouvert le samedi matin pour
réunir. Tu peux nous rappeler quel type de structure est le Saint-Raphaël ?
C'est une médiathèque.
Très bien,
en fait, on a la médiathèque de Saint-Raphaël, deux médiathèques à Nice et la maison des associations à Antibes pour le siège social et une salle qui est dans une mairie à Le Bar-sur-Loup. Et ponctuellement, on va aussi dans d'autres médiathèques pour, par exemple, faire des ateliers imprimantes 3D, etc.
Ça fait un bon réseau.
Oui, on a un très bon réseau.
Bravo, ça veut dire que ça...
Et on l'a construit. Là, on envisage de faire des choses aussi du côté de Nice encore, mais un petit peu à côté, ça s'appelle la Gaude. Bon, tout le monde ne connaît pas, c'est pour ça que je précise que c'est près de Nice. Et ça nous permet, en fait, d'avoir des gens qui sont sur place et de ne pas faire aller et venir tout le temps les quelques membres actifs. Tout le monde peut s'y retrouver s'il a envie, mais si un jour, moi, j'ai pas envie d'aller à Nice, je sais qu'il y a David ou Alain ou
qui pourront accueillir les personnes.
Pourront accueillir et surtout renseigner. Parce que ce qui est important, c'est le discours, c'est expliquer aux gens l'intérêt du logiciel libre, la force.
Les aider, mais aussi les accompagner, les orienter, expliquer comment ça marche, voilà. Et aussi la philosophie. Véronique, on me prévient, on m'informe que malheureusement notre temps pour aujourd'hui est terminé. Moi, je te remercie beaucoup pour ta participation et peut-être qu'on se reparlera encore pour quand la nouvelle édition des journées méditerranéennes sera prête. Merci beaucoup, Véronique.
Merci à toi. Au revoir Isabella.
Au revoir.
Salutations au soleil et Véronique, et à bientôt. Merci Isabella. Donc c'était la chronique Le Libre fait sa com de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonne journée Isabella.
Bonne journée à tout le monde.
Alors nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, quelques annonces. L'Assemblée Générale de l'April a eu lieu le 27 juin 2020, donc samedi dernier, en mode décentralisé grâce à la solution de visioconférence Big Blue Bloton mis gracieusement à notre disposition par la société Octopus que nous remercions chaleureusement. Notre Assemblée Générale avait été reportée suite évidemment aux conditions sanitaires. Suite à cette Assemblée Générale, j'ai le plaisir de vous annoncer que Véronique Bonnet devient présidente de l'association et succède ainsi à Jean-Christophe Becquet. Et vous les retrouverez les deux pour leurs chroniques respectives Partager est bon et Pépite libre à la rentrée en septembre 2020 dans l'émission. Cette émission du jour, c'est la dernière de la saison, donc reprise en septembre. N'hésitez pas à nous envoyer des idées, de vous expliquer ce qui vous plaît dans l'émission, des suggestions, car nous allons profiter de l'été évidemment pour préparer la saison 4. Il y aura donc des nouveautés, sans doute des nouvelles personnes dans l'équipe, du renfort pour la programmation musicale. Mais voilà, on vous réserve ces surprises, on va travailler cet été à ça après quelques jours de repos. Et bien sûr, il y a encore des événements qui se passent dans le monde du libre en France et ailleurs. Vous les retrouvez sur l'agendadulibre.org. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous partez en vacances, on a mis aussi en place une page avec l'ensemble des podcasts de Libre à vous que vous pouvez écouter, vous les emmenez dans votre valise et vous pourrez écouter plein d'émissions. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, donc Véronique Fritière, Emmanuel Reva, Isabella Vanni, Elsa Potier, Marie-Odile Morandi, Étienne Gonu, François Poulain, Christian Maumont, je crois qu'on a battu le record de personnes invitées. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Olivier Grieco, le directeur de l'antenne de la radio. Merci également à Sylvain Kutzmann et Antoine, bénévole à l'April, et toujours Olivier Grieco qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Et je voulais faire un remerciement tout particulier à mon camarade, à notre camarade William Agasvari, qui a réalisé les émissions à distance depuis la période de confinement avec Mumble. Je pense que sans lui, malheureusement, on aura eu des difficultés à diffuser. Donc, je rappelle que William anime deux émissions sur la radio. Une émission historique, hein, Cyberculture le samedi, et une émission qui est, je crois, le mardi soir, si je me souviens bien, qui s'appelle « Et pour cause ». Donc, n'hésitez pas à écouter en direct ou les podcasts si vous arrivez à les trouver. Vous retrouvez sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm, une page consacrée à l'émission du jour avec toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour et d'avoir écouté toute la saison, évidemment, de Libre à vous. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Pendant la période de confinement, il y a eu des nouvelles émissions qui ont vu le jour, notamment par exemple les 3 premières minutes, vraiment un concept absolument génial en 3 premières minutes d'une œuvre qui nous permet de découvrir. C'est vraiment super. Donc il y a plein d'autres émissions. Et évidemment, pendant l'été, il va y avoir une grille particulière et à la rentrée, il y aura sans doute évidemment des nouveautés. Donc la prochaine émission aura lieu normalement en direct mardi 1er septembre 2020 à 15h30. On y parlera sans doute d'éducation, donc ce sera là peut-être la rentrée des classes. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et un excellent été. On se retrouve en direct à la rentrée et d'ici là, portez-vous bien.